La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comme je leur ai dit, le linge sale de la famille se règle en privé.
Ce que je regrette, c'est qu'on a encore une fois manqué de maturité. On s'est un peu jeté dans la gueule du lion alors qu'il y en avait beaucoup de temps.
Vous avez commencé la compétition sur des échappeaux de roues. C'est pas fait.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur la chaîne YouTube de l'After, comme tous les soirs, After-Foot. L'After est là, premier podcast de France. Votre espace de liberté à vous les supporters. On vous attend au 32-16 avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Florent Gautreau, salut Florent.
Salut à tous.
Avec Johan Crochet, salut Johan.
Bonsoir tout le monde.
Johan qui a gagné une Coupe d'Europe ce soir avec l'Atalanta. On va en parler, on va analyser tout ça avec Paulo Breitner qui nous rejoint également. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Et salut, on fera
3-0 pour l'Atalanta.
La Conférence League va tomber aussi.
Ah, la Conférence League.
Bien sûr qu'elle tombera.
Entre l'Olympiakos.
Plus un entraîneur italien qui va gagner la Ligue des Champions. Il sera bien, Johan.
Plus l'Euro.
Ah oui, l'Euro, j'avais oublié, c'est vrai, ça vient après l'Euro.
Plus dur. L'Euro, déjà, t'es qualifié.
Oui. C'est pas l'Euro qui pose problème en Italie, c'est l'Euro du monde plutôt.
Il est tenant du titre, Johan, ouais. L'Euro.
Oui. Bon, 32-16, évidemment, il y aura aussi toute l'actu du jour, pas mal de choses, de mercato qui se profile, la situation à Nice, notamment, la situation de Douai à Rennes, on a pas mal d'infos à vous faire partager tout à l'heure.
La situation à Rennes, hors Douai aussi.
Mais dès qu'on parle de Rennes, il est en fusion.
Ah non,
mais
normal, c'est son territoire.
Ah là, t'as quand même.
Il est chez lui, il est à domicile.
T'as quand même une page qui va se tourner.
Tout à fait. On en reparlera tout à l'heure d'ici minuit, bien sûr. Direct Studio est également disponible sur. Nos applis pour nous envoyer des messages. Mon cher Polo, oui. Beaucoup de monde sur le chat YouTube qui nous dit Polo l'avait dit hier.
Oui.
Voilà, bah écoute, on te rend hommage sur le chat YouTube.
À toi de jouer, Polo, à toi de jouer.
Non, mais bon, je vais le dire d'une façon très simple, ça pendait au nez de Leverkusen depuis quelques temps, je le dis assez souvent le lundi, mais comme c'est caché par le mysticisme de Leverkusen, on va nous expliquer que, c'est comment ils ont raté leur match, ils ont fait ceci. Non, le niveau, déjà, je le disais déjà au mois de janvier, février, le niveau de Leverkusen 2024 n'est pas tout à fait le même que celui de 2023. La deuxième chose, c'est que tu as le droit de dire bravo à l'Atalanta qui a bouffé de la tête et des épaules Leverkusen physiquement par son pressing, contre-pressing, ce que tu veux. Troisièmement, je vous rappelle quelquefois que certains journalistes en Allemagne posent la question systématiquement de la composition des équipes.
Merci.
De coach Alonso.
Ben oui.
Pour lui dire, mais attendez, vous passez parfois ric-rac, parce que quand même, rappelons-le que les matchs à élimination directe, en huitième, quart et demi, Karabakh, rappelez-vous, qui s'arrache pour aller se qualifier alors qu'ils sont menés 2 fois de suite 2-0, que le quart de finale, ils trouvent le moyen d'être menés, contre West Ham, pardon, il se balade à l'aller, mais la première mi-temps du match retour est dramatique. Il trouve le moyen d'être mené 2-0 alors qu'ils sont largement supérieurs à la Roma lors du match retour après s'être baladé au match aller. Et si tu veux, j'ai pas vraiment été surpris par cette finale. Donc, parce que ça leur pendait au nez tout simplement. Et je vais dire un truc, j'ai pas eu le temps de le dire avant la rencontre. Je regardais sur les chaînes allemandes ce qui passait et il y a un truc qui m'a. Alors, tu vas dire sûrement, mon cher Gilbert, que je suis trop bure avec les Leverkusen, etc. Mais ils ont trouvé le moyen, 20 minutes avant le début de la rencontre, Xabi Alonso était interviewé par la chaîne allemande, pour lui passer une petite vidéo d'Eric Ribeck, qui était l'ancien coach vainqueur de Leverkusen de l'UEFA en 1988, pour le féliciter de sa saison, etc. Comme si tu veux, on était dans une histoire qui devait s'écrire, et Leverkusen, forcément, allait remporter les trois titres. Donc, moi, je sentais le truc arriver, je vois ce qui se passe en Allemagne, où on passe nous temps à nous faire ben voilà, on est en train de faire des petits documentaires, des chaînes allemandes pour expliquer la fabuleuse saison de Leverkusen, etc. Cette fabuleuse série de 51 matchs qui finalement ne rapporte pas de trophée, mais
ils sont champions d'Allemagne, Polo.
Ils sont champions d'Allemagne, d'accord.
Mais c'est pas rien dans l'histoire de Leverkusen, c'est pas rien.
Non, mais oui, enfin, Leverkusen, si on est honnête, aurait déjà dû être champion avant.
Mais d'accord, mais comme ils le sont juste... pas. En fait, je comprends ce que tu veux dire et en même temps, je comprends pas tout. Leverkusen fait une saison incroyable. De toute façon, terminer devant le Bayern en Allemagne, c'est déjà une performance. Être champion en étant invaincu, c'est un truc unique. Il y a pas de problème. Ce que je comprends et là où je peux te rejoindre, c'est sur le côté. Toi, t'aimes pas beaucoup et je te comprends parfaitement quand on essaye de monter des légendes. Ça enlève rien à la saison fantastique de Leverkusen. Mais ce que tu soulignes finalement des défauts que tu peux pointer dans cette équipe, parce que après tout, qu'ils fassent une deuxième partie de saison où ils sont un petit peu moins bons, un championnat c'est long, tu joues pas tout seul, donc les autres équipes, bah si elles se prennent les pieds dans le tapis comme a fait beaucoup le Bayern, tant pis pour eux. Si Dortmund a été meilleur en match de coupe qu'en match de championnat, bah c'est un constat et c'est un constat que tu peux également appliquer à Leverkusen. Pourquoi? Et là, je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, ce que vous en pensez. Parce que finalement, il y a un entraîneur espagnol et, à la tête de Leverkusen et que bah, c'est la mode des génies espagnols, mais qu'ils ont un peu tous le même défaut. C'est-à-dire que la durée d'un championnat, c'est une chose. Le match de coupe, tes inventions répétées, tes espèces de compos tout le temps alambiquées qu'il faut essayer de trouver.
Jusque-là, ça marchait.
Ben non, pas tant que ça. Polo, il a raison de dire
parce que tu regardes pas les matchs, Gilbert. Tu regardes pas les matchs de Leverkusen.
Ça a été du miracle que la Roma t'a failli te faire reprendre au match retour.
Parce que tu vois pas, tu vois pas la baisse de niveau au fur et à mesure les tests.
Un match sur deux dans les matchs aller-retour, c'est compliqué. Et ce soir, il se banane avec sa compo en bois, avec ses choix bizarres.
Je sais que le rôle du journalisme, comme le disait Florent Gautreau lors de ses quand il donnait des cours, est de mettre le stylo dans la plaie. N'est-ce pas, mon cher Florent?
Mais en fait, la plume, c'est toujours la même. Et la plaie, c'est toujours la même.
Plutôt la plume dans la plaie que dans le cul.
Gilbert, en fait, c'est toujours le même problème.
C'était ma première intervention dans la
première
plume.
Intervention. Il a craqué.
En fait, c'est toujours le même problème. Et c'est le problème qu'a eu Guardiola pendant des années, qui, avec des équipes en or massif, allait se bananer en Coupe d'Europe sur le même problème. Cette envie absolue de contrôler, de faire des équipes inventives, sans le neuf, sans tes meilleurs joueurs, sans le machin, on va faire tourner, on va mettre le turnover. Les dernières compos du Bayer Leverkusen, et ça, Polo peut en témoigner beaucoup plus que moi, en Allemagne, on comprenait pas. T'es là, t'es devant, tu dis. Et de la même façon, quand il était au Bayern, Guardiola, le championnat, bah, tu le domines. À Manchester City, tu domines le championnat, t'arrives en Coupe d'Europe, il en a gagné une contre l'Inter 1-0, où franchement, sur la finale, c'est pas une domination absolue, il aurait très bien pu se faire avoir en contre dans cette finale-là. Et quand tu vois Tottenham, quand tu vois le Real cette année, voilà, c'est un problème qu'ont ces entraîneurs-là.
C'est pas ça, tu veux dire.
Pardon ?
Barça.
Non, Guardiola, il s'est planté contre le Real cette année au Pénau contre une équipe qui
avait espagnol.
Oui, non mais même. Bon, après je parle même pas du génie parisien qui en 2016-2017 avec des équipes en or massif est allé se faire mais marcher dessus par la Juve en 2017.
Mais qui a gagné le PSG en demi-finale de Ligue des Champions avec une équipe moyenne.
Bon, ta démonstration n'avait pas pour but de revenir à Luis Enrique.
Non, mais je suis pas d'accord. Les événements, c'est toujours un match sur deux. Et contre Dortmund, qui est en dessous, il perd. Et il se fait avoir tactiquement.
Mais comme dit Polo,
et contre la Real Sociedad, tu passes parce qu'en faisant un match sur deux.
Non, mais on est en finale. Meilleure. La finale de l'Europa League, vous n'allez pas, au bout de 5 minutes d'émission, vous engueulez sur Luis Enrique.
Xabi Alonso a le même défaut que tout. Ce sont des mecs qui se prennent pour des génies. À un moment, essaye d'avoir un peu d'humilité. Gasperini, il lui a donné une leçon ce soir.
Voilà, Polo enchaîne.
Un point, parce que juste.
Pas sur Luis Enrique.
Non, pas du tout là-dessus. Merci. Justement, moi, pour revenir sur le vainqueur.
Et toi, tu les critiquais, ces entraîneurs espagnols. Mais et non, là, maintenant, parce que t'as décidé de te mettre dans la peau du Jacques Vergès de Luis Enrique, tu renies tes principes.
J'ai dit pas de Luis Enrique.
Mais non, mais lui, il critiquait ses principes. Les mecs qui jouaient 109. Les mecs qui jouaient 109, tu les critiquais.
Si, bien sûr, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Ah, merci.
C'est pas le problème. Alors, regarde, on a vu un 9 avec Luis Enrique. Ramos, il a joué.
en neuf.
On a dit,
il
pas a dit tout au-dessus.
Mais non, mais tu vas pas venir. Donc là, Adli, je suis d'accord, ok, pas de problème. Il y a pas de souci là-dessus. Et j'aime pas non plus la possession stérile. J'adore la transition et je trouve que Sané, il en a fait sans le savoir. C'est comme Monsieur Jourdain, Luis Enrique. Mais peu importe. Mais peu importe. Et il veut pas le dire parce que voilà, parce qu'il se fout de notre gueule en com. Je suis d'accord. Mais néanmoins, ça a marché aussi. Et t'as le droit d'avoir une équipe. Là, je viens à la finale, Merci. Le soir, Gilbert. T'as le droit d'avoir une équipe. C'était ce qu'a dit, je sais pas si c'est Johan ou Polo, d'avoir une équipe en face. Qui est meilleur aussi. Ok, on va parler de la, tu peux parler de la compo. Moi, je vois une équipe que j'ai vue. J'avais expliqué à Johan ce que j'avais ressenti au Vélodrome, moi. Deuxième mi-temps au Vélodrome. Je prends de la moins bonne. Deuxième mi-temps au Vélodrome, tellement ils étaient bons, en fait, ils ont géré cette deuxième mi-temps. Parce qu'ils ont pas appuyé sur Lookman ce soir-là. Non, certes, l'OM a été très fort aussi. Ils les ont gênés. Mais j'ai senti presque, pour te dire la puissance de cette équipe, presque de la gestion pour le match d'après en Italie, pour la suite de la compo et au match retour. Il y a même pas photo. Ils les ont bananés. Et deuxième point, et après je reviens là-dessus, quand même. Pareil, sur Lookman, j'avais été déçu parce qu'ils avaient pas appuyé sur Lookman au Vélodrome alors que sa première action avait été phénoménale. Et ben voilà, depuis il l'a remis titulaire, et depuis qu'il est titulaire, il est énorme. Moi je veux parler aussi des vainqueurs.
On est pas en désaccord et non, tu as raison. Et on va en parler d'Atalanta, Johan en parle depuis des années maintenant.
Et je veux parler de Dortmund qui a battu PSG, je veux aussi mais parler de Dortmund qui a été bon, tu vois,
la frustration de... que va relayer Polo et qui sera évoquée en Allemagne, c'est quand même celle d'avoir le sentiment que cette équipe n'a pas joué avec ses meilleures armes et qu'elle l'a pêché ce soir, là où ces derniers temps elle pêchait tout le temps,
oui, mais là où
sur
le
des principes idéologiques qui sont usants. Moi, l'idéologie, ça me
coach,
fatigue.
Tu peux concevoir que le mec qui est invaincu de cette saison, et même si j'ai entendu tout ce qu'a dit Polo, ok, il a raison, le contenu, faut regarder, ok. Mais tu peux aussi comprendre que psychologiquement, le gars qui est invaincu et qui y est arrivé, peut penser qu'il va quand même y arriver encore, même avec des contenus moins bons.
C'est match ça de que coupe, je veux dire. Match de championnat, c'est
oui,
pas
il y a deux, il y a deux choses.
Polo et ensuite la parole à Johan. Ouais, vas-y, Polo.
Il y a deux choses. La première partie de saison, c'est Boniface en neuf, Firtz, meneur de jeu décalé gauche, et Hoffman. Grimaldo, Frimpong sur les côtés, et vous avez Palacios, Andrich, et puis trois défenseurs centraux. Ça, c'est le meilleur des Leverkusen. Depuis, en gros, trois mois, aussi parce qu'il y a des joueurs qui étaient en moins forme, il a commencé à supprimer Hoffman. Il a évidemment eu Boniface qui était blessé, il y avait Patrick Schick, et là, il nous fait quoi? Il nous met deux neufs sur le banc. Ça, il le fait plusieurs fois. Frimpong, à tour de rôle avec Grimaldo, il les fait plus jouer piston, gauche ou droit, alors que ça a été leur grande force, il est fait jouer quasiment meneur de jeu décalé. C'est un truc que moi je veux bien. Tu peux le faire de temps en temps lorsque tu veux jouer en contre, etc. Parce que c'est ça en fait. Sauf que tu es mené 2-0 parce que ton équipe est pas là au coup de sifflet initial et tu te retrouves mené de 2-0 très rapidement. Donc tout ça c'est compliqué. Mais on sent. Moi, enfin, je suis pas une pitié, quoi. Je suis pas là au Cassandre ou ce que tu veux. Là, je le sentais venir ce truc. Le problème, c'est que ça arrive au plus mauvais moment, quoi. C'est-à-dire, moi, j'aurais voulu le voir. Leverkusen a vaincu en Bundesliga. Mais qu'est-ce que j'en ai à péter que Leverkusen soit invaincu en Bundesliga? À partir du moment où t'es champion, tu vas prendre ta bière et puis c'est fini, quoi. Mais non, les gens, 31e journée, 32e journée, 33e journée. Et c'est des trucs. Alors, je sais bien aussi, les journalistes, ils s'en servent, ils comprennent en Allemagne, ils font leur papelard, etc. Mais qu'est-ce que ça, en quoi c'est utile?
Je refais une parenthèse PSG, justement, parce que je pense aussi que quand Luis Enrique, lui, est dans cette logique de préparer la fin de saison, et la demi-finale de Ligue des Champions, et la finale de la Coupe de France, lui aussi se fout, et là je pense que je suis totalement d'accord avec Polo, et moi je soutiens ça, il se fout de savoir s'il va finir avec les records, là, des points, et
ça,
des 10 points d'avance.
Évidemment,
mais bon, Polo, ouais. Mais non, on en parle toujours.
Non,
aujourd'hui.
Non, on s'en fout de ça, t'as raison.
Et puis c'est un truc de supporters aussi, les supporters, ils disent,
moi, ils auraient préféré perdre trois matchs en championnat et gagner ce soir, Gilbert,
c'est pas le problème, c'est pas que ce truc là m'intéresse pas, parce que le doc sur les invincibles j'avais vu, j'adore, c'est je préfère, et vraiment je le dis, et c'est pas sans esprit polémique sur le PSG, je préfère vraiment la gestion physique, absence de blessures, la gestion des cartons, tout ce que tu
mais
veux
ça a pas
pour
marché.
Arriver. Non mais attends, ça a pas marché parce que l'équipe était moins forte et
non, aussi, parce que tu joues Dortmund. D'accord. C'est comme ce soir, tout le monde voyait favori les Leverkusen.
C'est dans la gestion, je préférerais pour revenir au Bayern, effectivement, perdre, ne pas être invaincu en Bundesliga et avoir les éléments nécessaires, y compris physiques, parce que ce soir, on parle pas du match. Ils ont été aussi bouffés physiquement, donc c'est important.
Johan regarde tranquillement la remise de la coupe, qui est l'Atalanta vient de soulever le trophée, un des plus beaux trophées du football mondial d'ailleurs, cette coupe-là. Très
oui,
réussie.
C'est vrai.
Voilà, je sais pas qui l'a conçu, quel artiste l'a conçu, mais c'est très réussi. Bon. Johan, t'écoutes là, tout le monde.
Effectivement, ouais, il est vrai que l'Atalanta.
J'ai pas tout écouté.
Je pense que t'es deux.
Je le trouve très placide comme le gardien Musso d'ailleurs.
Pas mal.
Bon, c'est une blague des années 80.
Oui, belle passe. Oui, je pense que l'Atalanta, avec Sassuolo quand même, sur les deux clubs, Johan Crochet ces dernières années. Donc voilà.
Il y en a qui descend en série B et qui gagne l'Europa League.
Bon.
Non, c'est. En fait, ce qui est. On peut parler du match, évidemment, il y a plein de choses intéressantes, même dans le match. Hein.
Moi, revenons au match, Johan.
Ouais, mais moi, le premier truc auquel je pense, c'est juste le travail qui a été effectué depuis 8 ans. Et on va mettre évidemment Gasperini, on va mettre les joueurs, mais aussi Antonio Percassi, le président du club, qui a racheté le club en 2010, qui a joué, il était joueur de cette équipe de l'Atalanta il y a fort longtemps, qui l'a racheté alors que l'Atalanta était dans une situation très compliquée, qui a fait la grosse part du travail avant de le revendre il y a quelques mois, en tout cas de laisser l'actionnariat majoritaire à des Américains, puisqu'en Italie il n'y a que les Américains qui viennent acheter les clubs, mais qui a décidé avec ces Américains-là, dont Stéphane Pagliuca, qui est rien à voir avec le gardien, je le précise d'abord, qui est actionnaire aussi des Boston Celtics. Et là où en fait ils auraient pu se laisser griser par arrivée de capital, etc., ils ont décidé de continuer sur le même modèle, même entraîneur, même facilité à aller sur le scouting, même volonté d'intégrer des jeunes du centre de formation aussi à l'équipe première. Ce soir c'est tout bête, hein, mais il y a deux joueurs de la formation qui sont sur cette équipe-là. Il y en a un qui rentre en cours de match, c'est Scalvini, et l'autre c'est Ruggeri qui est titulaire. L'Atalanta bosse très bien parce qu'elle bosse sur les infrastructures. Un des rares clubs italiens qui a su structurer son club, son entraînement, stade qui est en train d'être finalisé. Ça bosse très bien parce que ils bossent sur la formation. Ils ont une équipe U23 depuis cette année en troisième division italienne, comme la Juve, les deux seuls clubs italiens à l'avoir. Ça bosse très bien sur le scouting. Ça va chercher des inconnus. Martin Doron, Hans Attebourg, Robin Gosens.
Qui sont que des bons joueurs, hein.
Ouais, c'est que des bons joueurs. Mais.
Ils vont récupérer Docateller qui était en échec, ouais, et qui est pourtant un très,
ouais,
bon joueur.
Ouais, mais alors
joueur.
Ça, tu vois, c'est grâce aussi à tout le travail qui a été fait avant. L'été dernier, tu réussis à faire venir Docatellar, et avec une option d'achat qu'ils vont lever, qui va faire un package global de quasiment 30 millions d'euros, et Scamacca, qui sont allés chercher à West Ham, pour plus de 20 millions d'euros aussi. Tout le parcours, toutes les étapes franchies, tous les étages montés un à un, te permettent aujourd'hui, en tant que club, avec les ambitions que tu as de terminer toujours européen, d'aller loin en Coupe d'Europe, d'aller chercher des joueurs à 20 ou 30 millions d'euros, ce qui, très sincèrement, il y a même 5 ans, était totalement impensable. Donc moi, je pense à Percassi, je pense à Gasperini, qui a mangé beaucoup de
pain noir.
De pain noir, merci Flo. Parce qu'on lui disait, ouais, c'est bien beau, il joue au professeur. Alors, ok, il a un côté qui est,
oui,
très désagréable.
Tu nous as aussi expliqué que c'était un gars qui avait un boulard.
Voilà. Il a un côté très désagréable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on se concentre sur le football, on lui disait, ouais, c'est bien beau, c'est facile de faire ça à l'Atalanta, mais quand est-ce qu'il gagne, Gasperini? Eh ben, il gagne ce soir.
Un mot sur Lukman.
Lukman.
Non, ouais,
on va faire un truc parce qu'on a Tiemoko qui est là. Il veut justement parler de Lukman. Hein. Donc on va faire
On a vu Waterloo.
On va
et
faire
tout, mais...
une spéciale Lukman dans quelques instants. Évaluation. On va reparler du match ensemble dans quelques instants avec Tiemoko 32-16. N'oubliez pas que la roue RMC est également toujours là avec la fameuse trompette. Dès que vous l'entendez, d'ici minuit, vous aurez la possibilité d'envoyer roue par SMS au 732-16 pour participer au tirage demain, enfin, participer au jeu et faire tourner la roue. Quant au trophée de l'Europa League, il a été conçu par l'atelier Bertoni à Milan. Voilà, c'est de l'œuvre du bon goût, c'est forcément
alors,
italien.
Alors il est à la maison, le trophée.
De l'ouvrage italien, voilà. C'est vrai que c'est pas loin de Milan, mais regarde.
Petit hommage aussi à Lombardie. À un Argentin.
Oui, c'est la grande banlieue de Milan.
Ouais. Allez, à tout de suite dans l'after. N'oubliez pas également l'actu du jour. Info Mercato, Nice, Rennes notamment, d'ici minuit tout à l'heure.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskapizza.com. Pour votre santé, bougez plus!
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h17, l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Paulo Breitner, Johan Crochet après la victoire de l'Atalanta d'Argan face à Leverkusen en finale de l'Europa League. D'ailleurs, à propos d'after post-Coupe d'Europe, je vous signale que les archives de l'after sont toujours en ligne. Voilà, un podcast spécial auquel il faut vous abonner sur n'importe quelle plateforme, ils sont présents partout. On vous a mis là en ligne l'after de France-Irlande.
La main?
Ah oui, la main de Thierry Henry. Oh. Un after mythique. Oui,
pas mal.
Voilà, avec un beau casting à l'époque, Eric Dimeco, Jean-Michel Larquet, il y avait du lourd. Louis Fernandez, bien sûr. Nous étions dans un pub irlandais, à l'odeur assez, comment dirais-je, suspecte à l'époque. Mais on y était là-bas, on avait passé une bonne soirée. Jusqu'à 2h du matin, le podcast est long. Thiemoko est là, salut Thiemoko.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Ça va et toi?
Très bien.
Salut.
Ça va, merci. Bah, écoutez, j'appelle pour... je suis supporter de l'Inter. Hein.
D'accord.
Mais j'appelle pour Ademola Lookman, puisque c'est un joueur africain, puisque moi je suis d'origine ivoirienne et j'étais à la CAN. Mm-hmm. Et je l'ai un peu suivi, un peu, on va dire, pendant cette compétition.
Et avec en fait, le Nigeria.
Avec Nigeria. Et en fait, au Nigeria, c'est la star, c'est Osimhen, mais celui qui vraiment est important dans le collectif, c'est Lookman. Osimhen, il a la lumière sur lui, mais Lookman, il a prouvé pendant la CAN que c'est celui qui mettait les buts importants. En fait, c'est un peu un homme des matchs importants. Après, il a ce côté où il est né en Angleterre et il a pas ce côté où.
Oui, j'allais dire, c'est pas un Nigérian du Nigeria. Voilà. Quoi. Il est né en Angleterre, il a joué dans les équipes anglaises jusqu'aux espoirs.
C'est ça. C'est pas un pur Naija Boy comme on dit, donc il a ce côté où il est un peu froid. La preuve, quand il marque ses buts, il est pas très expressif. Donc il y a ce côté-là, il me fait penser un peu à Messi quand il était au début avec l'Argentine, où il montrait pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est un monstre et c'est un.
On a regardé avec Flo le premier club de Lookman. Vous savez ce que c'est? Le FC Waterloo.
Non.
Voilà, bon, c'est pour l'anecdote.
Très bien.
Ah, c'est Morne-Plaine pour nous, mais pas pour tout le monde.
Voilà. Et pas pour lui.
Thiemoko, est-ce que tu sais depuis quand il n'y a pas eu un triplé en finale d'une Coupe d'Europe?
Et c'est tout. Alors, toute coupe d'Europe. Je crois qu'il n'y a jamais eu, ou bien?
Non, en fait, c'est le premier joueur africain, en revanche, à mettre un doublé, donc un triplé en finale de Coupe d'Europe.
Ça, c'est possible, mais le dernier triplé, il date de 75.
La finale 75, Bayern-Leeds.
Ouais. Polo, c'est qui? Non, c'est Mönchengladbach.
Mönchengladbach.
À l'époque, avec Mönchengladbach.
Ah, bah donc, c'est pas la Ligue des Champions, alors.
Non, toute Coupe d'Europe.
Ah oui, parce que 75, c'est Bayern Leeds, la finale au Parc des
Princes. Un ancien joueur que Polo connaît bien.
Ça peut pas être Bertie Vogts.
Non.
Devenu entraîneur.
Heynckes. Exactement. C'est Jupp Heynckes, qui était le dernier à avoir mis
C'est la finale UEFA, d'accord.
Mönchengladbach.
Voilà, c'est pour l'anecdote.
Si, mais en revanche, c'est vrai que premier joueur africain à mettre un doublé. Enfin, j'ai regardé la stat, un doublé, du coup un triplé, mais en finale de Coupe d'Europe.
Deuxième anecdote, est-ce que vous pouvez me citer tous les clubs italiens qui ont remporté une Coupe d'Europe?
Bah oui, on devrait y arriver.
L'Atalanta,
t'es un nouveau. Allez, tous les grands clubs italiens, vas-y. Les deux clubs de Milan. Ouais.
La Juve.
Ouais. La Juve.
La Roma.
La Fiorentina.
Ouais. Ça compte Ville de Force ou Fiorentina? Ouais, ok.
Non, mais la Fiorentina.
La Lazio.
Naples, on a gagné une.
Ils en manquent une.
Ah, une seule? Ah ouais, c'est pas tant que ça.
La Sampdoria.
Exactement. Dixième équipe quand même.
Coupe des coupes 91. Parce qu'on finit la Ligue des Champions 91.
Comment il s'appelait ce joueur de l'Est là, qui était derrière?
Katanec.
Il y a eu surtout Virchovod.
Avec Cerezo, le Brésilien.
Toninho Cerezo.
Virchovod en défense.
Le gars là, Lombardo.
Cette sample-là, elle est extraordinaire.
Lana aussi, Lana en défense.
Elle fait Coupe des Coupes, où elle élimine Monaco d'ailleurs en demi. Et après, finale de la Ligue des Champions l'année d'après, où ils perdent sur le coup franc de Coman.
Thiemoko, tu penses que Lookman mériterait un club d'une envergure supérieure?
Lookman, le problème, c'est que j'espère que cette saison va le lancer, parce que c'est un joueur qui est présent dans les grands moments, mais il n'est pas encore assez régulier pour moi personnellement. Je sais pas ce qu'on pense.
Ouais. T'as raison, il est très irrégulier et moi je l'ai pas vu faire un match comme ça. Bon, ça tombe bien que ce soit ce soir, mais
demi était bien. Hein, Florent.
Ouais, mais pas à ce moment-là. Là, tout ce qui touche est extraordinaire.
J'entends, mais ce que j'ai noté, parce que évidemment, j'étais un peu là, presque un footix, mais quand je l'ai vu sur sa première donc action au Vélodrome, j'ai fait un tweet en disant voilà, le mec incroyable. Mais
il est pas titulaire.
Quand je l'ai vu comme ça, je l'ai vu entre guillemets par exemple comme un Doku, tu sais, qui parfois sur les premiers appuis avait été énorme en 1-1. Mais ce que j'ai vu dans le retour contre l'OM, ce que j'ai trouvé. Et là, c'est du Gasperini. C'est que, en tout cas, j'imagine qu'il a progressé là-dessus. Dans le petit jeu et dans le jeu avec les autres aussi, il est bon. Parce que là, il a fait de l'individuel. Parce que c'était ce que le jeu demandait. Mais moi, j'ai trouvé très bon aussi, collectivement. Et moi, je me dis que si ce joueur-là, qui a des appuis et quelque chose de, phénoménal qui dans le foot d'aujourd'hui est très très utile. Tu vois, on parle de Dembélé, la conclusion que n'a pas Dembélé, et là il lui a fait
c'est mais, ce ouais, mais il y a une soir. Différence, c'est que au départ c'était un pur ailier, et avec Gasperini il joue dans l'axe, donc dans l'axe t'as moins d'espace. Donc tu parlais qu'il avait beaucoup progressé dans les petits espaces, c'est ce que lui a apporté Gasperini.
Enfin dans l'axe là ce soir, ouais, il est côté, pour
ouais,
moi.
Axe gauche. Ouais, axe gauche. C'est pas un vrai ailier de 4-3-3.
Mais en fait dans les 4-3-3 aujourd'hui, ça a jamais été. C'est plus des vrais ailiers. C'est très rare. Normalement c'est soit tes joueurs de côté, tes pistons qui montent, mais c'est toujours des mecs qui en plus souvent quand ils sont pieds inversés sont décalé façon un peu Mbappé.
Pied inversé, t'as vu qu'il a mis son deuxième but pied gauche. Ah
ouais, ouais. Pied droit, pied gauche. Quand il arrive, il est surtout un joueur de 1 contre 1 et de profondeur. Et là, il est devenu un joueur beaucoup plus complet.
C'est ça qui est génial.
Exactement, où il peut même
et
jouer en appui remise.
Je pense que le travail de Scamac, qui est un neuf, ouais, et moi, sûr. Cette histoire de jouer sans neuf, ça me dépasse, mais ça lui sert beaucoup.
Oui, mais
d'ailleurs, sur le troisième but, c'est la fédération et la fixation de Scamac, pour le décaler.
Ouais. Attends, j'insiste aussi sur un truc, t'as raison. Mais quand t'as la chance d'avoir un vrai neuf de ce profil-là, c'est-à-dire Giroud, Scamaca.
Scamaca, c'est pas un génie du foot.
Non, mais le profil. Et je dis ça pour rapport à tout ce qu'on forme. Tu vois, ce genre de profil qui est un peu décrié, qui n'était pas dans l'air du temps.
Ouais,
on n'en a pas tant que ça, des profils comme ça. Tu sais, à une époque, on jouait, quand il y avait deux attaquants devant, dans les 4-4-2, on jouait avec ces profils, l'un comme ça,
oui,
et un petit
ouais,
peu
ouais,
le grand et le petit.
Et après, on a dit, en gros, ces mecs-là, ils sont pas, ils sont pas techniques. Oui, t'es grand, tu seras pas technique.
Au fond, Flo, cette histoire du 109. À quel moment ça marche? Même Guardiola est obligé d'aller prendre Haaland.
Non, mais l'Espagne de 2008. Ouais, remarque, t'as Villa, t'as David Villa.
Ouais. Enfin, tu vois, il y a quand même un moment. Oui. Peut-être qu'il les décale, peut-être que le mouvement est plus important, mais.
Mais l'Allemagne est championne du monde 109, parce qu'ils sont avec Goethe, je crois, non?
Ouais, tout à fait.
Non, c'est pas ça?
Bah, et encore Klose en 2014.
Il y a Klose en 2014.
En 2014, il y a encore Klose. Donc cette idée que parfois je peux comprendre, néanmoins les équipes qui gagnent elles ont ce joueur un peu de fixation.
Mais même si tu prends par exemple un De Zerbi à Brighton, il a Ferguson qui est un vrai neuf et il a un João Pedro qui a un 9,5 mais qui se rapproche quand même beaucoup d'un neuf. Donc même les entraîneurs qui ont cet esprit que t'aimes et que tu aimes parfois détester aussi, il y en a beaucoup qui aussi aiment avoir un numéro 9.
Tactiquement.
Mais Xabi Alonso, au final, il débute la saison comme avec un 9 aussi.
Oui, mais au final, comme a expliqué Polo, il a une équipe qui semble fonctionner, mais il veut tout changer, il veut tout chambouler. Il y a cette histoire de fraîcheur, mais les mecs, tu les fais pas jouer deux semaines, bah, la fraîcheur, elle ne sert plus à rien. Tactiquement, ce que fait Gasperini, on le souligne depuis des années, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est bien au fond qui nous épate? C'est cette intensité permanente. Mmh. La particularité.
67e minute.
C'est le pressing. Donc
le courage de comment tu disposes tes joueurs sur le terrain et à quelle hauteur ils défendent.
Alors après, j'allais ajouter, ce qu'on peut ajouter, c'est ce 1 contre 1 qui est beaucoup décrié dans le football. Beaucoup n'aiment pas. Quand Tudor essayait de le faire à l'OM, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu cette idée-là.
Il l'a fait évoluer. C'est-à-dire qu'au tout départ, c'était un 1 contre 1 sur tout le terrain.
Ouais. Voilà.
C'est-à-dire qu'on avait Toloi parfois au point de corner adverse, au poteau de corner adverse.
Zone, quand même.
Là, c'est
on l'a caricaturé.
Une individuelle dans des zones. Des petites zones. Ouais,
donc on l'a beaucoup caricaturé, le fameux soi-disant individuel machin, c'est pas exactement ça. Donc
c'est ça d'ailleurs, je pense, la nouveauté de ces coachs-là aussi, qui est dans l'évolution. Moi, je pense qu'ils font progresser les joueurs. Ça faut souligner quand même beaucoup. Est-ce que des coachs font progresser les joueurs? Tu vois, ça c'est intéressant comme débat par rapport aux entraîneurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Guardiola, t'as raison. Il aurait pu ne pas gagner cette finale de Ligue des Champions parce que, mais en revanche, on l'a dit avec Sterling, on l'a dit avec Doku,
je parle de joueurs inférieurs. Évidemment.
Et là, ce que je pense,
c'est que Lookman, ça m'intéresse. Dans l'intelligence
je dis
de
pas
jeu.
Que Lookman, ça va être énorme parce qu'il y a plein de joueurs comme ça qui ont brillé par
Scamacca, on le voit. Hein.
Mais même Scamacca, tu l'avais dit. Moi, ce que je vois, que ces mecs progressent aussi individuellement dans un collectif. C'est pas seulement, effectivement, le pressing haut, le pressing. Moi, à la 67e, pour les gens qui vont revoir le match, j'ai noté
même
ça.
Même à la 80e, ils y sont.
Même à 80e,
ils sont à 5 dans les 35 mètres
de la fin, mais à 67e, à un moment donné, ils sont dans les 30 mètres adverses et les mecs, les Verkusen, à un moment donné, ils rendent le ballon. Genre, ils n'en peuvent plus, ils rendent le ballon.
J'avais pas complètement fini ce que je voulais démontrer sur les qualités qu'on mettait en avant d'Atalanta. Mais après, au final, tactiquement, sur la disposition des joueurs, on n'est pas dans quelque chose de révolutionnaire. Et si je dis révolutionnaire, c'est parce que je trouve qu'il y a trop de coachs qui essayent de nous faire croire, de chambouler toutes leurs équipes, de changer de poste un tel. Et quand on parle de l'Atalanta, quand on voit une équipe comme ça qui nous régale, Le schéma, il est assez simple. Tu vois qui est le neuf, tu vois qui est le mec de côté, tu vois qui sont les milieux de terrain, tu vois qui sont les défenseurs. S'il y a des pistons, moi, le Bayern ce soir, il y a certains joueurs, je suis pas trop capable de te dire où ils jouaient vraiment, quoi.
En fait, la révolution de Gasperini, elle est sur deux points essentiels. Le premier, c'est l'approche des matchs pour une petite équipe. C'est-à-dire arriver et jouer comme une grosse équipe. Alors que t'es petit,
donc,
même
qu'on va être dans
gros,
le message. Ce que tu vas décrire, c'est le message et la faculté de faire croire en ton message à tes joueurs.
Exactement.
Un peu ce que Farioli expliquait dans, dans le DRCE, c'est la croyance.
Bien sûr.
Tu vas croire, même si t'es petit, que t'es capable de faire.
Et d'ailleurs, une des contraintes que souvent des entraîneurs ont du mal à enlever, c'est les croyances qu'ont les joueurs avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire, on nous a formaté comme ça. Donc moi, je crois qu'en ce modèle-là, et un entraîneur qui est un peu disruptif, c'est le modèle mode, arrive et veut changer les choses, bah il se bat non pas contre de la mauvaise volonté, mais contre des croyances. Mmh. Ça, c'est très important.
Alors, cela dit,
et la deuxième chose, juste, je termine, c'est sur l'individuel. Il a quand même remis l'individuel, sa part de Gasperini, parce qu'aujourd'hui, même si des De Zerbi parfois en première ligue, si des Guardiola parfois en première ligue font des individuels, tout part quand même à la moitié des années 2010 de Gasperini.
Après, non, juste un point, et c'est pas pour faire une petite tête sur Luis Enrique, mais c'est pour dire que dans les coachs, même dans les discours, faut tout écouter. Je suis entièrement d'accord sur cette idée de croyance, c'est-à-dire d'arriver à convaincre les joueurs que Luis Enrique expliquait dans une fameuse interview à PSG TV que quand il changeait, après on peut débattre de du bien fondé de ça, mais en tout cas individuellement, le message qu'il voulait donner aux joueurs, c'est oui. Tu sais, le joueur qui lui disait, mais moi, je ne sais jouer que là, c'est là que je suis le meilleur, machin. Il voulait dire, en tout cas, moi, je pense qu'il faut les former pour être ailleurs aussi. Parce que si un joueur, disait-il, arrive dans l'équipe et qu'il est meilleur à ce poste-là, il faudra que l'autre puisse se reconvertir autrement. Je dis juste ça sans esprit de
polémique. Moi, j'aime leur intelligence à ces coachs-là. Incontestablement, leur façon de parler de foot, leur vision. Mais faut pas aller trop dans l'extrémisme et dans l'idéologie de j'invente. Vraiment, c'est la seule limite.
Allez, pause dans un instant. On aura Massimo Corto avec nous. Il est supporter de l'Atalanta. Eh oui, ils écoutent l'After, les supporters
Maxime
de l'Atalanta.
Et
il sera avec nous dans quelques secondes. Massimo, on l'attend, bien sûr. Et on fera une petite évaluation ensemble avant de passer en revue l'actu du jour dans quelques instants. Quant à Lookman, Jérôme Thomas me signale qu'il y a une doublette avec Claudio Beauvu en attaque. Ça aurait quand même eu de la gueule.
Mais moi, j'aurais aimé aussi.
J'ajoute Chris quand même. Ouais. Chris aurait pu jouer aussi.
Et
Maxwell Cornet.
Et moi, j'aurais aimé voir Granit Xhaka avec Pascal Pierre.
Oui, on avait déjà fait ça, c'est vieux, ça, Florent, et Alain Roche.
Ne dis pas ça, parce qu'il y a des gens qui ont
entendu. Et Gravillon, l'ancien Rémois, bien sûr, c'est déjà fait ça. T'es capable de beaucoup mieux.
Non, c'est pour les nouveaux auditeurs.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h32, Florent Gautreau, Daniel Riolo, Paulo Breitner et Johan Crochet sont là et Massimo Corto donc avec nous, supporter de l'Atalanta. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bon, vrai supporter de l'Atalanta de longue date et tout, raconte-nous.
Vrai supporter, en fait, ça vient de l'immigration, donc mon grand-père qui est de Bergame et qui a émigré en France, donc voilà, toujours été tifoso de l'Atalanta et j'ai pas les mots là.
Ouais, t'as attendu longtemps dans ta vie pour être heureux.
Ah mais oui. Bah, après on a fêté quelques titres en Serie B, mais ça reste de la Serie B quoi. Là c'est assez fou.
Là tu t'attendais à un tel scénario ce soir?
Non, pas du tout. On entendait tellement de grandes choses sur le Bayern Leverkusen, mais je regarde pas trop la Bundesliga, donc je m'attendais à une meilleure adversité, mais j'ai l'impression que le pressing de l'Atalanta, ils sont pas attendus à ça, ou ils ont peut-être un peu trop de...
Évaluation, quel joueur pour toi a été énorme ce soir? L'homme... Bon, on a parlé de Lookman, on va dire que c'est l'homme du match,
ouais,
bien sûr. Mais parmi les autres, qui t'as envie de citer?
Énorme, magnifique.
Incroyable, surtout dans un rôle un peu avec deux rounds, enfin, il manquait deux rounds et il se trouve qu'il a vachement bien rempli ses chaussures-là. Et c'est un joueur qu'on voit pas, mais qui est tout le temps efficace, que ce soit sur les replis défensifs.
Sur la pression au milieu.
L'entrée de Scalvini m'a impressionné.
Ouais. Le petit frisé, là, le sosie de Pavard. Sur Yves Pavard et de Michael Gregorio, au passage.
Oui, mais je parlais d'Isaac Yen, acheté à l'Hellas Vérone cet hiver, et qui fait encore un match, je trouve, de patron, qui s'occupe super bien des défenses, besoin des attaquants.
Ederson, c'est intéressant parce que il est repéré par sans doute l'un des dirigeants italiens qui a le plus travaillé avec l'Amérique du Sud et qui a fait venir bon nombre de très grands joueurs sud-américains ou de bons joueurs sud-américains pardon en Italie. Walter Sabatini, qui a été directeur sportif à Palerme, à la Roma et qui était à la Salernitana, et il fait venir Ederson lors d'un mercato d'hiver du Brésil, et c'est lui qui a fait venir les Pastore, les Cavani, les Lamela à la Roma, etc., et Marquinhos à la Roma, Castan aussi, et c'est vraiment un dénicheur de
beaucoup
talent sud-américain.
C'est là aussi à Palerme aussi.
Ouais, bien sûr.
Toute la bande.
Puis tu vois dans l'idée de ce que j'aime bien dans ces entraîneurs là, t'as l'idée évidemment du jeu. Mais défensivement, alors évidemment dans l'individuel que tu racontais, mais sur le type de joueur. Je prends un exemple puisqu'on l'a connu en France, Kolasinac. Kolasinac, c'est intéressant parce que tu le vois, tu dis en France, ouais, bon, pourquoi ils l'ont pris? Je me souviens quand il arrive, oui, t'as vu, Arsenal le fait pas jouer, donc il est moyen, machin. Et là, ils ont tout fait pour le faire jouer parce qu'il avait des soucis, c'est ça?
Ouais, il revient de blessure.
Il a quitté parce que je pense à craquer
à la mi-temps.
Mais dans les duels, il a mis un duel à un moment donné marquant dès le début du match.
À Marseille, après les débuts. Avec Tudor.
Tu te souviens de ce que tu entends? Avec Tudor. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour toutes les équipes, tu sais, on parle de ces joueurs aussi mentalement qui sont importants. Il a voulu faire jouer Kolasinac. En gros, je vais caricaturer parce que c'est un guerrier. Il a besoin de Kolasinac pour ça aussi. Donc, de même que tu peux dire, toi, on a besoin d'un neuf dans une équipe, on a besoin aussi de mecs dans le vestiaire, quand tu sais que t'as Kolasinac pour partir à la guerre, c'est utile. Et c'est intéressant de voir ça parce que
c'est pas mal les vieilles recettes dans le football.
Ouais, bien sûr.
Bonne petite Kolasinac, pas en tant que latéral. Kolasinac, oui. Troisième défenseur central à gauche.
Dans l'axe, je suis d'accord.
Beaucoup moins d'aller-retour.
Isaac Yen avait failli signer à Strasbourg l'été dernier, figurez-vous.
On peut constater qu'il
a choisi le mauvais club, évidemment.
Vous ratez les bons joueurs, Gilbert, merde alors.
Mais là encore, les progrès du football italien sur l'identification des jeunes joueurs en Europe, Isaac Yen, moi je le connaissais quand il était en Suède, à Djurgården, c'était vraiment un défenseur central intéressant. Il va à l'Hellas Vérone et en peu de temps, il se retrouve à l'Atalanta, il gagne et vous verrez que dans 2 ans, il sera en première ligue.
Après, c'est intéressant sur les joueurs. Pourquoi on les récupère, tu vois, à l'Atalanta, pas ailleurs. Je peux penser à Lookman, par exemple. Mais par exemple, Rennes a été en contact avec Jim City et avec Cop Miners. Ouais. Bon, après, ils l'ont pas eu, mais voilà. C'est même il y a quelque temps, c'est pas simple. Tu vois, c'était pas simple.
Mais Simon, il y a un autre joueur que tu veux citer.
Moi, c'est globalement l'équipe. Je trouve que c'est surtout une victoire d'équipe depuis le début. La progression globalement entre les défaites contre le PSG, le Real Madrid, et on sent que de compétition européenne en compétition européenne, l'équipe n'a fait que progresser, a appris de ses erreurs, et c'est surtout ça dont je suis très fier pour l'équipe, quoi. Donc,
et ils seront dans la nouvelle formule, la Ligue des Champions.
Et le niveau général aussi, global de l'effectif, a augmenté. Faut pas l'oublier, ça. C'est ce que j'expliquais, la progression étage par étage, c'est que au milieu de terrain, t'as des meilleurs joueurs. En défense, t'as quand même 2-3 éléments qui sont intéressants. En attaque, t'as un répertoire offensif qui est de grande qualité. C'est ça aussi, l'Atalanta, c'est réussir à progresser d'année en année.
Sur le nombre de clubs italiens, là.
Évaluation allemande, les gars.
Il va y avoir beaucoup de clubs italiens en Coupe d'Europe, non? La moitié du championnat.
Il pourrait y en avoir 9 en tout.
9 en tout, sur toutes les Coupes d'Europe.
6 plus 2 plus 1, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Si la Fiorentina gagne la
moitié de la série.
Les milieux de semaine vont être agités.
Tu vois, perso, moi, je le disais l'autre jour pour la 7ème place en Ligue 1, mais je trouve ça dingue. Et moi, franchement, ça ne peut pas arriver.
Si Dortmund gagne la moitié de la Italien, mais c'est ridicule. Ça pourrait être la même chose en Allemagne. Il pourrait y avoir énormément de clubs aussi.
Franchement, si Dortmund gagne la.
Polo, combien vous allez avoir d'équipes l'année prochaine?
Alors, en 8 normalement. Si Dortmund gagne la Ligue des Champions, il y en aurait 6 en.
Ah, bah oui, c'est pareil, t'as raison.
Des champions. Sinon, non, ce sera 2 en Europa League et 1.
Ouais, pareil, 6 plus 2 plus 1.
Parce que Polo, lui, ça fait un pile 50% en plus, lui. Hein. Ah, bah oui, c'est 9. Ouais, avec un championnat 18, ça fait 50% quand même.
Polo, ça évaluation. S'appelle l'intégration européenne forcée. Ça.
Bien sûr.
évaluation du Bayern Leverkusen, de qui tu veux parler, en bien, en mal, vas-y.
Granit Xhaka, qui a tout raté ce soir, dans ses combats, dans ses passes longues. C'était quand même un peu le métronome. Il a tout raté ce soir. Mais en fait, si tu veux, ils sont pas rentrés sur le terrain. Et moi, je voudrais juste tirer un bon coup de chapeau à la Talenta, qui est peut-être en Europe l'une des équipes que je regarde le plus, parce qu'elle est intéressante, même s'il y a des choses qui me plaisent pas, notamment sur les passes réussies, parce que c'est aussi la conséquence aussi de ce pressing et contre-pressing de Gasperini, quoi. C'est pas forcément tout, c'est efficace, mais pas toujours beau à voir. Mais si tu veux, moi, ce soir, qu'est-ce que tu veux que je dise de Leverkusen? Ils étaient pas là. Encore une fois, je me répète, je pense que ça leur pendait au nez, que ça allait arriver, je sais pas quand. Là, ils s'en prennent une grosse. Là, je vois le directeur sportif, Simon Rolfes, à la télé allemande, qui rigole. Bon, ben, si tu veux, mec, j'ai pas envie, quoi. Non, mais si tu veux, ouais,
on va rigoler.
Mais non, je comprends pas. C'est des choses comme ça. Tu te prends une volée. Réfléchis déjà à ton effectif pour 2024-2025. Ou est-ce qu'on en parle souvent dans l'after, où Leverkusen doit s'améliorer. Ce n'est pas une grande équipe. C'est une grande performance. Il y a eu par le passé des équipes beaucoup plus fortes à Leverkusen qui ont moins le palmarès que celle de cette année. Mais voilà, c'est pas qu'une question d'une défaite comme ça. C'est qu'elle est prévue. Elle arrive au mauvais moment, évidemment. Mais il faut surtout tirer son chapeau à l'Atalanta, qui est une des équipes les plus intéressantes d'Europe.
Juste sur l'évaluation, un mot, Palacios, qui effectivement se fait doubler par Lookman sur le premier but et qui rate.
Ouais,
c'est lamentable.
Ouais,
non, mais c'est un symbole, je trouve, assez révélateur de la première période.
Tu m'as fait penser à un truc, Polo, sur les passes de l'Atalanta. On oublie dans l'analyse, Lookman marque le but à la 12e. Les 10 premières minutes, l'Atalanta est en difficulté. Parce que Leverkusen est en train d'imposer son jeu et de s'installer dans le camp de l'Atalanta. Et la réplique, en fait, ça a été, j'ai trouvé ça à la fois étonnant et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils faisaient ça. Dès qu'ils avaient un ballon, ils ont mis des sacoches devant. Oui. Comme pour faire remonter, comme pour dire, on va essayer de balancer le ballon loin pour ne pas essayer de jouer, parce que à ce moment-là, dans le pressing, Leverkusen était tellement fort, le bloc était tellement haut qu'ils avaient peur d'étouffer. Et ils se donnaient de l'air comme ça, mais à force de se donner de l'air, ils ont réussi petit à petit, et ça a pas pris longtemps, puisque finalement, au bout de 10 minutes, la tendance s'est un peu inversée. Mais le début de rencontre de Leverkusen, il est bon. C'est eux qui mettent la main mise sur le match.
Ils sont très fébriles défensivement. Ils perdent des ballons très rapidement.
Mais dans les intentions et dans l'occupation du terrain, ils font ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils font ce qu'ils veulent.
On l'attendait, la possession, on l'attendait du coup.
Oui, mais ils s'installent comme
ils veulent. Il n'y a pas une occasion.
Non, ça, je sais, mais ils s'installaient. Ils étaient comme toi, si, je sais pas, t'es invité quelque part, tu commences à t'installer un petit peu, tu vois.
Oui.
Voilà.
Personne à ma table.
Et après, ils dansent sur la table.
Voilà. C'est ça.
Mais moi je préférerais féliciter l'Atalanta que de dire ce que je pense de Leverkusen. Ce soir, moi ça me plaît parce que c'est une belle claque. Ça doit faire réfléchir le club s'il souhaite grandir, parce que si on parle de projet, c'est aussi relativement récent, même si c'est la deuxième année de Xabi Alonso. Il doit réfléchir pourquoi ça n'a pas fonctionné et peut-être aussi se poser la question, pour en revenir à ce que tu disais, Daniel, le côté mystique de jamais perdre, de toujours s'en sortir durant les arrêts de jeu ou de beaucoup marquer dans les 80 minutes. Ça serait peut-être bien de réussir ses premières mi-temps, tout simplement, parce que aussi bien en Bundesliga qu'en Europa League, les premières mi-temps, elles sont compliquées en général pour les Leverkusen. Donc il y a un travail à faire là-dessus, encore une fois améliorer l'effectif, parce que ce soir il y a quand même deux joueurs qui n'ont pas le niveau. Je l'attends pas, ce soir c'est 29% de duels gagnés pour un défenseur central, faut pas déconner quand même.
Mais c'est pour ça qu'on a assez peu vu Scamacca sur les actions offensives. Par contre, tout le travail qu'il a fait dos au but pour gêner, tac, il savait pas s'il fallait anticiper, lui passer devant, à droite, à gauche, attendre, reculer, être à 2 mètres, et
on aurait pu le perdre aussi. Sur son intervention très ratée.
Ouais, ça.
Bon,
ouais.
On va s'arrêter là, les gars. Merci, merci, Johan.
Merci à vous.
Johan. Polo,
juste un petit dernier truc, puisque comme j'étais à Leverkusen et que les gens au club ont eu la très bonne idée de se moquer de la Roma en leur mettant Bella Ciao. Je pense qu'on a eu une très bonne réponse ce soir.
Ciao.
C'est gentil.
Voilà. Polo, maintenant que tu sais que...
L'Allemand est bien chambré, contrairement à ce qu'on pense.
Polo, maintenant que tu sais que le Bayer Leverkusen n'est pas immarcessible, je te laisse chercher la définition, parle-nous de Vincent Kompany qui est annoncé ce soir au Bayern.
Je savais que c'était annoncé. Est-ce que c'est officiel?
C'est les médias néerlandophones qui en parlent.
Néerlandophones, oui.
Ça va pas faire un Polo.
Non, mais Kompany.
Néerlandais.
Choix 8, hein, selon la liste de tous ceux qui ont refusé.
Ouais, tu connais.
À une époque, au PSG, il y a eu un choix 8. Il a passé 3 ans au club.
Le Laurent Blanc, à l'époque.
Non, alors je vais être honnête avec toi, j'entends ça.
En fait, non, c'est pas les néerlandophones, pardon, c'est The Telegraph en Angleterre qui est là.
Ben ouais, mais là, hier déjà, ils annonçaient compagnie qui était une nouvelle piste possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée de son contrat, s'il vient. Parce qu'en fait, tout ce qui coince en ce moment, et encore une fois, ce que je dis est spéculatif, parce que personne n'est au courant. Est-ce que quelqu'un est prévu au Bayern en 2025? Ce quelqu'un, c'est soit Jürgen Klopp, soit Xabi Alonso. Donc tout, là, aujourd'hui, la durée des contrats des joueurs, est-ce qu'il vient faire une pige, comme Ralf Rangnick aurait pu venir faire une pige? J'en sais rien. Mais compagnie, ouais, ok, très bien. Mais bon, pourquoi faire? Enfin, je veux dire, compagnie...
Pas une grosse expérience de coach, quand même.
Ben, est-ce qu'elle est si réussie que ça? Partout où il passe. Et pourquoi compagnie? Il a passé un an en Allemagne, donc il doit se débrouiller en allemand, évidemment. C'était à Hambourg à l'époque, avant de partir à Manchester City. Très bien. Mais,
ouais, mais Polo, ça revient à ce qu'on disait lundi. Hein. Tu prends un mec pour un an qui sera pas trop difficile d'écarter au bout d'un an pour, oui, attends, pour faut, avoir faut, club faut ou pas dire,
faut, oui, mais ouais, ce que je veux dire, c'est spéculatif. Ce que je dis, l'histoire des un an, c'est que ça pollue toute la communication qu'il y a autour. Personne ne sait s'il y a déjà quelqu'un de prévu entre Xabi Alonso et Jürgen Klopp en 2025 au Bayern. Et ça pourrait expliquer pourquoi un joueur, un coach de comme compagnie débarquerait, encore une fois, s'il n'avait qu'un an de contrat. S'il avait 3 ans de contrat, ça me semblerait extrêmement douteux. Ou tout
ça fait un peu intérimaire, quoi.
Mais ils en sont là.
Moi, j'avoue que je trouve cette situation un peu folle pour un tel club, mais bon.
Mais parce que parce qu'il y a des éléphants qui passent leur temps à s'exprimer, à dire non, c'est pas possible. Moi, les infos que j'avais du côté du Bayern, c'est que, évidemment, dans le vestiaire, on était très, très contents, in fine, d'avoir Thomas Tuchel comme coach. Et le fait qu'il avait son contrat qui s'arrêtait en 2025 était fabuleux parce que ça permettait, d'amener la nouvelle personne théorique, encore une fois, soit Alonso, soit Jürgen Klopp. C'est parce que c'est ce qui circule en Allemagne. Où Lyonnais a préféré faire comprendre que Thomas Tuchel n'était pas un bon coach, que ça n'allait pas, que dès qu'il avait besoin de quelque chose, il voulait acheter des joueurs, etc. etc. Donc, non, moi, ça ne me surprend pas.
Merci, Polo. Juste une réaction de Fred Antonetti sur l'arrivée de Vincent Kompany, qui, évidemment, veut donner son point de vue.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là.
Tous les compagnies.
On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Voilà, c'est longtemps qu'on l'a pas entendu. Ça me
c'est le compagnie qui vaille, c'est le compagnie crée.
Merci Polo, merci Johan.
Ciao, ciao.
L'actu du jour, Mercato niçois, notamment dans quelques instants dans l'after. Et puis Benatia qui s'exprime sur le futur coach de l'OM aussi. À tout de suite. Oh la roue! 5 minutes pour envoyer roue par SMS à partir de maintenant. Allez-y.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilles Darbribois.
23h48, Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là. Mehdi Benatia explique sur Twitter ce soir qu'il n'a pas rencontré Francaise, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias. Il dit non, c'est faux. Voilà, je vous le précise, hein, parce que le feuilleton de l'entraîneur marseillais, évidemment, est en cours. Voilà l'info du soir concernant Benatia. Pas plus d'infos, cela d'il y a quelques minutes. Hein. Mm-hmm. Maintenant, concernant Nice, Jérôme Rotten dans Rotten sans flamme expliquait tout à l'heure que Bruno Genesio a 3 choix. Sur son bureau, comme on dit. Nice, Lille ou l'Arabie Saoudite. À Nice, on parle d'un ticket lyonnais, Genesio Maurice.
C'est ce qui est dans les tuyaux, presque bouclé.
Donc Gisolfi est à Rome, hein, c'est fait.
Oui, Gisolfi est à Rome, c'est fait. Et Farioli est à l'Ajax.
Presque à l'Ajax.
Oui, c'est fait aussi.
Et en tout cas, et Florent Maurice qui traîne déjà.
Le Maurice à Nice, c'est quasi bouclé et il ne leur reste plus qu'à boucler. Maurice, c'est bouclé, il reste à boucler Genesio. Voilà.
Ils ne sont pas partis en super bon terme quand il y a eu séparation
c'est
à Rennes.
Hein. C'est plus complexe que ouais. Ça, leur relation. Leur relation, c'est que il y a eu des accrochages, mais comme normaux, même ils s'apprécient beaucoup. Ils sont très loyaux l'un envers l'autre. Je vais prendre un exemple sur une situation sur les défenseurs centraux. Puisque c'était une des grosses critiques pour Maurice. Le gros défaut de Florent Maurice a été justement de se braquer, de ne pas communiquer un peu plus pour expliquer tout ça, parce qu'il avait dit, voilà, que quand il a proposé des joueurs à Genesio, et que Genesio estimait que ce joueur n'était pas suffisamment haut, costaud. Il a dit, bah dans ce cas-là, si c'est pas du top top, je préfère essayer de gérer avec les jeunes, en gros, que tu vois. Donc, et après, Florent Maurice dit, moi, je m'en prends plein la gueule alors que j'avais des propals et tout. Donc, sur ce genre de sujet, ils se sont accrochés, mais accrochés en mode en réunion, sans jamais se brouiller définitivement. D'ailleurs, quand Genesio a quitté Rennes, il a fait une dernière bouffe à laquelle, évidemment, Florent Maurice était. Voilà, pour revenir sur la supposée brouille.
Qu'ils puissent bosser ensemble, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, je ne sais pas ce que le club va faire de l'effectif actuel. Avec l'effectif actuel, Genesio aura beaucoup de mal. Il lui faut un effectif comme il avait.
Dante reste un de plus d'ailleurs, on l'a pris aujourd'hui. Il aura 40 ans.
Ça, honnêtement, je ne sais pas si c'est une vraie bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire que tu n'arrives pas à trouver des défenseurs
centraux. Il aura 41 ans en octobre.
Mieux que lui, mais ça me paraît un peu bizarre tout ça. Bref, je reviens à ce que je disais. L'effectif actuel de Nice, il est dur à gérer. Très dur à gérer, beaucoup de caractériel, beaucoup de revendications, beaucoup de relou, quoi. Je vais faire simple. Il va falloir le changer beaucoup. Et au club, on espère faire un grand ménage. C'est pas simple dans le foot, les grands ménages, parce que t'as les contrats, il faut trouver des portes de sortie, il faut recruter toi aussi. Il faut pas garder des mecs qui deviennent des pommes pourries dans le vestiaire. Avant, c'est très bien hein, qu'on s'intéresse au ticket. Directeur sportif entraîneur, hein, mais il va falloir voir les outils que tu vas mettre à disposition de l'entraîneur. Et de ce côté-là, il y a du boulot pour construire un effectif qui satisfera Genesio hein, quand même.
Et il y a une interrogation parce que sur le leadership dans le vestiaire, qui est un truc toujours important, ça a été, à mon avis, sur certains cas, l'une des limites de Genesio quand tu as. Je ne parle pas forcément de vestiaire compliqué où il y a des gars difficiles à gérer sur le leadership avec des joueurs importants. Enfin, tu vois, il a encore un truc à prouver, Genesio. Donc, en fonction, comme tu le dis, du vestiaire et des recrues, c'est important à savoir. Maurice a beaucoup de choses à se faire entre guillemets pardonner par rapport à des choix qu'il a pu faire aussi.
Moi, j'ai jamais été totalement fan de ce recrutement.
Non, mais il a aussi trouvé des choses puisque tu vois, il a fait faire de bonnes affaires à Rennes. Donc, si tu veux, non, mais il faut juste voir. Je dis ça en disant défi parce que là maintenant, Maurice, il a beau dire pour sa défense des tas de choses, il y a eu des manques clairement et l'effectif de Rennes aujourd'hui, c'en est une preuve. Donc, s'il va là-bas avec un coach, moi j'aime bien l'idée d'avoir un binôme. Ça, là-dessus, je trouve ça assez bien. On a assez critiqué le fait de pas avoir des choses organisées.
Oui, ça veut pas dire que parce que t'arrives pas ensemble, tu vas pas t'entendre avec le mec là. Hein.
Non. Et après, la dernière chose, en revanche, plus globale sur Nice, je trouve que certes, c'est une idée, mais c'est une idée très Ligue 1. C'est donc un peu un retour en arrière par rapport à l'idée d'un projet un peu ambitieux.
Je dis pas que c'est fini. Le projet ambitieux, tu peux le ranger. Non. Alors, c'est terminé.
Le projet ambitieux économique, tout ça, on avait compris. Le pas en arrière, elle a été fait, à mon avis, intelligemment, même pour dire, c'est fini le top 3, on essaie de mettre du beau jeu. OK. Maintenant, je dis juste sur le projet sportif qui était censé remplir le stade. Genesio a fait des bonnes choses aussi à Rennes, peut-être que ça marchera. Je dis juste qu'ils étaient partis sur un truc sans doute un peu plus ambitieux en essayant d'aller chercher des idées un peu plus novatrices. Peut-être que effectivement les supporters se sont un peu emmerdés cette année, offensivement parlant. Là, tu reviens sur un truc peut-être plus classique, plus Ligue 1 et qui peut être intéressant, mais on voit effectivement qu'il y a redimensionnement du projet à tous les étages.
Pour finir sur Nice, le patron du centre de formation s'en va aussi, il s'appelle Manu Pires.
Enfin, Digard devrait partir aussi.
Et Digard est également sur le départ, donc vraiment, il y a un grand chamboulement à Nice. Au niveau Mercato, je voulais vous signaler également que Désiré Doué, qui devrait quitter Rennes, a du monde sur lui, PSG, Arsenal, Manchester United, pas rien. Voilà, parmi les clubs qui s'intéressent à Désiré Doué. Et puis l'info du jour, c'est que Monaco négocie sec avec Miko Tadze pour être le successeur de Ben Yedder.
Une bonne idée. Bonne idée. J'ai envie de voir ce joueur dans un club ambitieux.
Et juste pour revenir à ce qu'on disait par rapport au départ de Florent Maurice, acté ou quasiment, les pistes Massara et Lorenzi pour le remplacer en DS à Rennes sont activées, et pas que celles-là d'ailleurs.
Le marché des directeurs sportifs, c'est un truc, il faudrait qu'on s'arrête dessus parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Et il y a des noms qui, forcément de DS, qui, quand ils construisent des choses intéressantes, sont d'un coup extrêmement demandés. Et il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, là, dans la montée d'Angers, on a mis beaucoup en avant le travail de, comment il s'appelle, le gars qui était à Nîmes, Boissier. Boissier. On a mis en avant son travail.
Alors, clairement, il se faisait fracasser il y a un an. Hein. Rappelez-vous.
Oui, bien sûr. Donc il y a ce marché-là est intéressant à suivre.
Et je te signale qu'il y a des infos, oui. D'ailleurs c'est West France en partie là sur l'info Lorenzi pour Rennes, enfin pour Rennes. Mais c'est effectivement assez intéressant aussi, Lorenzi, par rapport au turnover, par rapport à ce qu'on a vu à Brest.
Info foot au jeu. Le rendez-vous Macron, Florentino Pérez n'a rien donné, parce qu'aujourd'hui en Espagne, on fait savoir même au Real que bon, même pas en rêve.
Je te le dis, même pas en rêve, c'est terminé. Fin de l'histoire.
Par contre, Hakimi il sera avec le Maroc. Le PSG semble OK pour lui dire tu peux y aller.
Ouais, visiblement c'est pour le satisfaire et lui dire bah tiens, prolonge ton contrat. C'est toujours la bonne méthode. C'est marrant parce que il y a des clubs qui montrent ce qu'il faut faire, le PSG font toujours le contraire. Le PSG, quand il faut baisser le froc devant un joueur, il le baisse. Donc Hakimi, j'ai envie d'aller faire JO. Bah ouais, mais alors tu prolonges, voilà. C'est toujours la mauvaise méthode. C'est quand même absolument incroyable. C'est incroyable ce club. C'est fou.
Et puis le gardien argentin Dibu Martinez devrait aussi être au jeu. Voilà. Et décidément, il colle à la France.
Le retour en France de Dibu.
Exactement. Énorme. Après la Coupe d'Europe, après la finale de la Coupe du Monde, il arrive. Et puis info du soir, la commission de discipline nous fait savoir que Mohamed Camara est convoqué le 30 mai prochain, donc suite au fameux patch.
Oui, bah à chaque fois ils sont convoqués.
Et je rappelle,
il peut se prendre une suspension. Hein.
Je disais à Gilbert.
Bah, dans ces cas-là, il faudra pas oublier les autres aussi. Ouais. Ceux qui sont cachés, genre Bentaleb, ceux qui ont pas voulu comme ça, faut que tout le monde y aille. Ça va pas tomber sur un seul mec.
Il faut que tu aies des preuves.
Je rappelais
à. Faut que tu aies des preuves concrètes.
Bah, tu les as.
Taleb, il était pas sur la photo, il faisait son lacet. Alors on peut dire, il fait exprès, mais t'as pas la preuve que c'était pour pas être sur la photo.
Bah, très bien, alors, dans ce cas.
Okay. Je rappelais à Gilbert tout à l'heure avant l'émission que. Pour des raisons bien différentes, Jérémy Lopez avait été suspendu pour avoir caché le mot Saint-Étienne.
Lopez,
le gardien de Lyon, j'ai perdu son prénom.
Anthony
avait été suspendu parce qu'il avait masqué Saint-Étienne avec un sparadrap. Il avait été donc, je sais plus combien de temps, suspendu, un match peut-être. Pour dire que si tu touches au maillot juste pour enlever un mot qui n'a rien à voir avec un problème important, tu le fais. Donc à minima, et je préférais d'ailleurs que ce soit pas que pour ça, juste pour cacher un mot, mais pour cacher en l'occurrence ce slogan-là, effectivement, qui est sanction.
Demain, 20h, Génération After, 22h, l'After. On sera là, on vous attend, bien sûr. D'ici là, l'After.media vous attend également pour simplement vous abonner à la revue. 3,90€ par mois, c'est donné. La nouvelle revue sur les coachs et dans les kiosques. On en reparlera demain, d'ailleurs, de son contenu, ensemble dans l'After. Bonne nuit à tous et à demain soir.
À demain.
RMC, l'After Foot.